Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
À la une de ce magazine, la fin de l'année de la foi au Vatican, le pape François a insisté sur la centralité du Christ, centre de la création, centre du peuple, centre de l'histoire, seigneur de réconciliation. Nous parlerons également du dialogue islamo-chrétien dans cette émission et du drame des Africains qui partent pour l'Europe en quête d'une vie meilleure. L'année de la foi promulguée et inaugurée par Benoît XVI s'est achevée en la solennité du Christ, roi de l'univers, couronnement de l'année liturgique. Le pape François a présidé la messe conclusive ce dimanche sur la place Saint-Pierre, en présence de quelques 60 000 fidèles et des chefs des églises orientales catholiques, patriarches et archevêques majeurs, réunis cette semaine à Rome. Une célébration solennelle marquée par l'exposition inédite des reliques de l'apôtre Pierre et par la remise symbolique de la première exhortation apostolique de ce pontificat, Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, à 36 représentants des différentes expressions de l'Église venus de plusieurs pays. Pendant le credo, le pontife a serré fortement dans ses mains le reliquaire de Saint-Pierre dans un geste de recueillement et de prière. Au cours de la messe, une collecte a été effectuée en faveur des victimes du typhon Hainan aux Philippines. Le reportage d'Audrey Radondi.
Les fidèles se pressent vers la place Saint-Pierre. Sur les écrans géants disposés tout autour apparaissent deux gardes suisses. Juste derrière eux se tient un évêque, une urne en bronze dans les mains. Ce sont les reliques de Saint-Pierre. L'urne est portée en procession sur le parvis de la basilique et déposée à droite de l'autel. La célébration commence. Le pape François fait son entrée et va saluer le reliquaire de l'apôtre. L'urne est alors ouverte et laisse apparaître les ossements attribués à Saint-Pierre. À une centaine de mètres de là, Jean-Paul les montre sur l'écran à son fils François. C'est la deuxième fois qu'il vient en famille au Vatican. La première fois, il se souvient d'avoir été très ému quand il était tout près du tombeau du prince des apôtres.
C'est très important pour nous, ça nous rappelle que notre foi vient du témoignage de Pierre, un témoignage qui est passé jusqu'au martyr.
Qu'est-ce que vous attendez de cette cérémonie ?
Bien qu'elle nous réveille.
Réveiller les croyants, soutenir leur foi ou permettre de la retrouver, c'était quelques-uns des objectifs de cette année particulière. Une année que n'oubliera pas Alice, originaire de la région parisienne. Hier, elle était parmi les 500 catéchumènes qui ont rencontré le pape.
Une année de joie, de paix, de grâce pour moi et puis je suis vraiment très contente.
Qu'est-ce que ça représente pour vous la foi ?
La joie et d'être l'amour, d'aimer les gens et d'être aimé aussi. Et puis de comprendre ce que c'est que la religion et de prier et d'avoir la paix, la joie dans le cœur et demander aussi la paix dans le monde entier.
La paix, c'est ce que réclame le peuple syrien épuisé après 2 ans et demi de conflit. Et comme pour le rappeler, certains font flotter parmi la foule plusieurs drapeaux rouges, blancs, noirs avec 2 étoiles vertes. Après la bénédiction, les reliques de l'apôtre sont ramenées en procession jusqu'à la chapelle de l'appartement pontifical dans le palais apostolique. Elles y sont conservées depuis les années 70.
Le sort souvent difficile des chrétiens dans le monde et en particulier au Moyen-Orient était au cœur des pensées du pape François en ce dernier jour de l'année de la foi. Le pape François qui appelait les chrétiens à remettre Jésus au centre de leurs pensées et de leurs actions. Le compte-rendu d'Olivier Tosserie.
En cette journée solennelle, devant des dizaines de milliers de fidèles, le souverain pontife a tourné ses pensées, ses prières vers tous les nombreux chrétiens persécutés en raison de leur foi. Il a évoqué en particulier les communautés chrétiennes d'Orient, surtout celles qui vivent en Terre Sainte et en Syrie, ces chrétiens qui ont confessé c'est le nom du Christ avec une fidélité exemplaire qu'ils ont souvent payé fort cher. Le pape François a prié pour qu'ils obtiennent la paix et la concorde, mais il a tenu aussi à saluer les Ukrainiens qui commémorent le 80e anniversaire de la grande famine des années 30 provoquée par le régime soviétique et qui fit des millions de victimes. Il a évoqué les missionnaires qui, au cours des siècles, ont annoncé l'évangile et répandu la semence de la foi dans plusieurs régions du monde. Son homélie avait comme fil conducteur la centralité du Christ que les croyants doivent accueillir dans leur vie. Lorsque Jésus est au centre, même les moments les plus sombres de notre existence s'éclairent. Quand on perd ce centre ou quand on le remplace, les dégâts sont importants pour l'environnement autour de nous et pour l'homme lui-même. commentant l'évangile de ce dimanche, la promesse de Jésus au bon larron, le Saint-Père a noté que Jésus prononce seulement la parole du pardon, non celle de la condamnation. Quand l'homme trouve le courage de demander ce pardon, le Seigneur ne laisse jamais tomber une telle demande. La grâce de Dieu est toujours plus abondante que la prière qu'il a demandé.
L'année de la foi a drainé à Rome quelque 8,5 millions de personnes en 13 mois. L'idée était de relancer la foi en perte de vitesse dans plusieurs pays. Nous avons demandé au père Nicolas Butté, modérateur de la fraternité Eucharistine, de dresser pour nous son bilan.
L'année de la foi était quand même un événement absolument extraordinaire. Il faut le situer dans la suite de ce que Benoît XVI avait inauguré avec la charité, sa première encyclique, avec l'espérance, sa deuxième encyclique, et l'année de la foi comme point d'orgue à ce grand mouvement théologal. Ce qu'a proposé l'année de la foi, c'est de refixer le regard vers Dieu, le Père, révélant Jésus-Christ dans la puissance de l'Esprit-Saint. On a recentré toute la vie de l'Église, toute la vie des croyants, autour du mystère de la foi, c'est-à-dire de Dieu lui-même.
Est-ce qu'on a noté concrètement un regain d'intérêt pour les fidèles, une pratique différente, un regain de foi, de ferveur ?
Je crois que c'est d'abord une stupeur de s'être reposé la question de la foi. Ça semblait aller tellement de soi. Enfin, on est chrétien, le christianisme est là, il y a une sorte d'habitude. Le pape François a beaucoup dénoncé aussi la mondanité de l'Église, le regard réductif, psychologique, sociologique. Il l'a dit très clairement au Brésil. Et finalement, de redire que ce qui caractérise le chrétien, c'est le regard théologal. Alors je pense que c'est un premier choc, un premier tremblement de terre qui a été apporté par cette année de la foi. Il va falloir encore que les secousses sismiques aillent dans les cœurs et dans les structures diocésaines et paroissiales. Mais je pense qu'il y a eu une sorte de sonnette d'alarme qui a été sonnée cette fois-ci pour nous redire, mais ne nous trompons pas. Le pape déjà, Benoît XVI, avait dit dès le départ, le christianisme est un anticonformisme. Et le pape François n'a cessé de répéter qu'il fallait aller à contre-courant, qu'il fallait viser les grands idéaux, qu'il fallait regarder les choses à partir de Dieu et non pas à partir du sol. Eh bien, je crois que c'est ça véritablement le grand mouvement qui doit être engagé à partir de ça. Et l'élément central, l'élément prodigieux qui a eu lieu pour moi, qui était une véritable lumière, qui n'a peut-être pas encore montré aussi toute sa fécondité, c'était cette adoration eucharistique contemporaine, mondiale, le 2 juin de cette année, où sur la terre entière, dans tous les lieux, dans les endroits les plus secrets, comme dans les grandes cathédrales, eh bien, il y a eu cette communion de prière autour du Sauveur, du Rédempteur, dans cette façon avec laquelle il a choisi de rester au milieu de nous, la façon la plus déconcertante, l'apparence d'un bout de pain, l'Eucharistie.
L'année de la foi a été lancée par le pape Benoît XVI, un pape théologien, s'achève avec le pape François, un pape pasteur. Ce sont les deux facettes de la foi ?
Oui, vraiment, vraiment. Le pape Benoît XVI avait bien dit, dans sa première catéchèse, je me souviens bien, il avait dit « il y a une façon de connaître Dieu, mais il y a surtout une façon de le reconnaître ». Connaître, c'est une question d'intelligence et de connaissance. Le reconnaître, c'est une question de cœur. Il s'agira moins peut-être de le connaître, quoi qu'on ne peut pas le reconnaître si on ne le connaît pas, mais aujourd'hui de le reconnaître. Et j'allais dire, la pédagogie de Dieu a-t-il nous donné à la fois celui qui nous a donné de connaître Dieu et celui qui nous permet aujourd'hui de le reconnaître à travers la figure du pape François dans une admirable complémentarité des charismes et dans une grande continuité du magistère. Je crois que c'est vraiment un cadeau. Il y a vraiment quelque chose à creuser de cette pédagogie du Seigneur à travers ces deux papes qui ont inauguré et conclu l'année de la foi. Mais je pense aussi à ce que disait Paul VI, puisqu'on célèbre quand même le 50e anniversaire du Concile. C'était pour cela que l'année de la foi était déclarée. Il disait, mais il y a un immense courant d'affection, d'admiration qui a débordé du Concile pour l'homme moderne, pour ce monde moderne. On a certes dénoncé quelques erreurs, il fallait le faire, c'est la charité qu'il demande, mais on a surtout voulu redire au monde qu'on aime, que l'Église aime le monde, que l'Église aime les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et j'allais dire que François illustre de manière tout à fait particulière, grâce à son charisme et à son magistère concret, c'est-à-dire non pas doctrinal, mais existentiel, il illustre véritablement cette parole du Concile qui rappelle que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et donc on a véritablement à travers lui aussi cette figure de l'Église aimante comme une mère, de cet hôpital de campagne, comme il aimait le dire, qui accueille un peu les blessés de la vie pour leur redire et leur redonner le goût de la miséricorde divine.
Le père Nicolas Butté, modérateur de la Fraternité Eucharistine, interrogé par Olivier Tosserie. Ce lundi, en début de soirée, le pape François recevra pour la première fois le président russe Vladimir Poutine, qui rencontrera également le nouveau secrétaire d'État du Saint-Siège, Mgr Pietro Parolin. En visite en Italie pour un sommet italo-russe, le président Poutine a tenu à passer par Rome pour rendre visite au souverain pontife. Il s'agira de sa 4e visite au Vatican. En septembre dernier, le pape François lui avait adressé une lettre pour conjurer une intervention militaire étrangère en Syrie. Nul doute donc que le sort des chrétiens du Moyen-Orient sera au cœur des entretiens, tout comme les rapports entre l'Église catholique romaine et le patriarcat de Moscou. Dans son interview au Père Spadaro, directeur de la revue des jésuites italiens Civiltà Cattolica, le Saint-Père a souligné l'importance du dialogue théologique avec les orthodoxes sur la question de la primauté de l'évêque de Rome. En 2011, Dmitri Medvedev avait rendu visite à Benoît XVI. C'est sous le pontificat de Benoît XVI que des relations diplomatiques complètes ont pu être établies entre la Russie et le Saint-Siège. C'est ce lundi que s'ouvre au Vatican l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Placée sous le thème « Membres de différentes traditions religieuses dans la société civile », les travaux se poursuivront jusqu'au 28 novembre. Les membres et les consultants du dicaster analyseront la situation actuelle du dialogue interreligieux dans les différentes parties du monde et approfondiront le rôle que la communauté chrétienne peut jouer pour promouvoir de meilleures relations avec les membres des autres religions 50 ans après le Concile Vatican II et au terme de l'année de la foi. La polémique est repartie en Turquie quant à la destinée de la plus célèbre église byzantine du monde, de l'ex-basilique Sainte-Sophie, un des grands symboles de la chrétienté à Istanbul. L'édifice est un musée depuis 1935, mais des groupes musulmans conservateurs, appuyés par les dirigeants turcs, voudraient la transformer en mosquée. Le mois dernier, à l'occasion de la fête de l'Aïd, un imam a demandé au gouvernement, dans son sermon, de faire revenir Sainte-Sophie au culte musulman. Le débat s'est encore enflammé ces jours derniers lorsque le vice-premier ministre turc a relancé le défi en qualifiant la basilique de mosquée de Sainte-Sophie. Ouvertement hostile à un tel projet, le patriarche écuménique de Constantinople, Bartholoméos Ier, a averti que si l'édifice doit être rouvert au culte, alors il faudra qu'il redevienne une église chrétienne, car il a été construit en tant qu'église et pas en tant que mosquée. Le gouvernement grec s'est rangé aux côtés du leader spirituel orthodoxe, qualifiant les déclarations des fonctionnaires turcs d'insultes à la sensibilité religieuse de millions de chrétiens et incompréhensible de la part d'un pays qui déclare vouloir participer à part entière à l'Union européenne, dont un des principes est le respect de la liberté religieuse. Le ministère turc des Affaires étrangères a rétorqué dans une note qu'il n'avait pas de leçons à recevoir de la part de la Grèce en matière de liberté religieuse. La mondialisation de l'indifférence, cette expression du pape François en septembre dernier à Lampedusa, avait frappé les esprits. L'invité de ce dimanche, Jean-Baptiste Sourou, va nous faire part de sa vision des problèmes d'immigration entre l'Afrique et l'Europe. Jean-Baptiste Sourou a été professeur de communication sociale à l'université grégorienne à Rome et maintenant il consacre une partie de ses activités à la recherche scientifique à propos de l'influence des médias modernes sur les rites et de la relation entre théologie et culture populaire. Son dernier ouvrage, Chronique d'un été glacial, le rêve naufragé des Africains, a reçu la mention honorable du prix international Solidarité avec les réfugiés. Il est interrogé par Catherine Aubin.
Jean-Baptiste Sourou, vous êtes professeur de communication sociale, vous êtes aussi journaliste, vous vous intéressez aux différentes cultures et particulièrement à l'Afrique. Jean-Paul II disait il y a quelques années « Puissent les peuples d'Afrique devenir les protagonistes de leur destinée ».
J'ai beaucoup cité cette pensée de Jean-Paul II partout, je l'ai écrit sur beaucoup de mes articles pour que nos cultures africaines deviennent le moteur de notre développement. Et je crois aussi qu'il est temps aussi que l'Afrique prenne en main la question de l'immigration. Sincèrement, ce que moi je dénonce, c'est l'hypocrisie qui entoure, qui est autour de la question de l'immigration africaine via la mer Méditerranée. On ne va jamais au cœur de la question.
Quel est le cœur du problème, Jean-Baptiste Sauveur?
Le cœur du problème, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est-à-dire, quelle est l'idée de l'homme que nous avons aujourd'hui? Qui est à la première place? Qui occupe la première place dans notre société? Est-ce que c'est l'argent seulement? Est-ce que c'est le profit seulement? Ou est-ce que c'est l'homme? Parce que les solutions existent pour stopper ces flux de candidats à l'immigration. Les solutions existent, mais j'ai comme l'impression qu'on n'y pense pas. Est-ce que vous allez me dire que l'Europe n'a pas les têtes pour penser à la question de l'immigration africaine et trouver des solutions à cela? Vous allez me dire que l'Afrique elle-même n'a pas les capacités pour s'asseoir et réfléchir autour de cela, mais ça n'intéresse pas.
Quelles sont-elles pour vous les solutions ?
À mon avis, l'Afrique doit sincèrement s'asseoir et dire « ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser tous ces enfants de l'Afrique là mourir de cette façon-là, dans la Méditerranée. » On vous donne des chiffres, on vous dit que de 2010 à maintenant, le nombre d'immigrés qui traversent la Méditerranée a baissé ou le nombre de morts a diminué. Mais je dis, quand vous prenez l'avion, on vous dit, on sait que vous avez embarqué, on sait que vous êtes dans l'avion. Mais qui est-ce qui est de l'autre côté, en Libye ou sur les côtes de l'Afrique du Nord, pour vous dire combien de personnes sont parties? On ne sait pas. Est-ce que nous savons combien de personnes meurent? L'un des pêcheurs que j'ai rencontré à Lampedusa m'a dit, je ne peux pas vous décrire ce qu'on voit. Nous prenons de plus en plus des corps humains dans nos filets, des restes d'hommes dans nos filets, des restes d'enfants, des restes de femmes dans nos filets. C'est ce que nous prenons, c'est ce que nous trouvons maintenant. Au lieu de prendre du poisson. Et nous en prenons de plus en plus. Du coup, nous sommes obligés, ça c'est un pêcheur de Lampedusa qui me le dit, nous sommes obligés de laisser ces zones-là, de les abandonner complètement, parce que ce sont des zones qui sont riches en poissons. Moi je dis que la mer Méditerranée est un cimetière d'Africains. Donc comme solution, il faudrait bien que l'Afrique et l'Europe, comme je le disais, s'asseyent et réfléchissent. Mais que les Africains eux-mêmes se disent, il faudrait que nous trouvions des solutions. L'Afrique ne peut pas attendre nécessairement l'Europe. S'il y a incendie chez moi, mes copains vont m'aider, mes amis vont m'aider, les voisins vont m'aider. Mais c'est d'abord à moi-même de chercher les solutions. L'Afrique, elle peut trouver les solutions. La plupart de ces gens qui quittent sont des gens qui quittent des pays où il y a la guerre, où il y a les violences, l'Érythrée, la Somalie. Si vous prenez la carte géographique de l'Afrique et vous regardez la RDC, le Mali, la Côte d'Ivoire, ce sont tous des foyers de guerre. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés alors de fuir. Et aussi, les pays africains, sincèrement, et là, Jean-Paul l'a dit aussi dans sa lettre pour la journée de la paix 2005, que tout ce qui arrive dans les caisses des États africains soit dépensé vraiment pour le développement et pour le bien des gens qui sont là. Donc, l'homme doit être au cœur de la question. Il faudrait aussi que les pays européens étudient mieux les questions de visa, les questions d'accueil. Il y a un expert de Médecins sans frontières avec qui je parlais il y a quelques jours qui dit que, par exemple, en Europe de l'Est, il y a beaucoup de postes de travail à pourvoir dans ces pays-là. Et que si on arrivait à mettre, si l'Europe réussissait à mettre sur place un système de repérage de tous ces postes-là, on pourrait chaque année, savoir quel est le nombre de personnes dont ces pays-là ont besoin pour pouvoir ces postes-là, pour pouvoir à ces postes-là. Et donc, on peut les envoyer dans ces zones-là plutôt que leur donner les visas. Donc, ce sont des gens qui peuvent arriver régulièrement.
Quels sont ceux qui profitent de l'Afrique?
Ces gens-là qui nous écoutent même savent ce qui profite de l'Afrique. Ce sont ces systèmes que Jean-Paul dit, que Jean-Paul II appelle système de péché qui existe dans notre monde. Ce sont toutes ces activités-là qui mettent l'homme à genoux, qui ne permettent pas à l'homme africain d'être debout. Les guerres qui déchirent l'Afrique, c'est autour des richesses. Il y a beaucoup de richesses en Afrique que les gens veulent prendre. On fait tout pour fomenter des guerres, pour qu'il n'y ait pas la paix dans beaucoup de pays.
Alors, Jean-Baptiste Sourou, vous avez une vision, vous êtes un peu visionnaire sur beaucoup de pays en Afrique qui sont en guerre. Comment arrivez-vous à ajuster ce que vous êtes, chrétien, béninois, professeur, journaliste, avec ce que vous voyez?
Quand j'étais étudiant ici à Rome, j'ai fréquenté deux universités. Donc l'université grégorienne pour mes études de communication et en sciences sociales et de l'autre côté aussi pour mes études de philosophie et de théologie. Mais je me disais juste une chose, pourquoi je le fais? Je le fais parce que je veux partager ce que j'apprends là. J'avais vraiment envie de partager ce que j'étais en train d'apprendre avec ceux-là qui ont eu moins de chance que moi. Et à la fin du parcours, c'est ça que je suis en train de faire maintenant. Parti, j'avais un beau poste ici à Rome. Je me suis dit, il faudrait quand même que je puisse partager ce que j'ai appris avec des jeunes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'enseignants de communication, qui ont besoin de gens qui peuvent les entraîner, les aider à étudier. Il y a beaucoup de jeunes en Afrique de l'Est, là où j'enseigne, en Tanzanie. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Ce sont des milliers d'étudiants. Ils ont besoin et ils sont reconnaissants. Ils vous disent merci parce que vous êtes venus. Vous pouvez rester là-bas en Europe, mais vous avez accepté de venir nous enseigner. Alors, ils sont reconnaissants. Ils vous disent merci.
C'était Jean-Baptiste Souroux, auteur de l'ouvrage « Chronique d'un été glacial, le rêve naufragé des Africains ». C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Bonne semaine à tous.